CFM Villefranche, le mag.
Vous venez de nous rejoindre suite de cette édition du magazine d'actualité, les lundis, santé, bien-être, environnement et biodynamie avec Didier Vallet. Bonjour Didier.
Bonjour David.
Aujourd'hui, c'est programmé, on va parler du pissenlit au rond des différentes plantes utilisées pour les préparations en biodynamie. Le pissenlit.
Te vois tout lirer, David.
Moi, j'aime bien, comme l'ortie,
depuis,
j'aime bien cette
que tu attends le pissenlit. Oui, mais pour l'instant, on a parlé surtout des généralités de l'agriculture biodynamique. Hein. C'est-à-dire qu'on a vu un petit peu différentes plantes, qui sont des plantes médicinales, et qu'on utilise d'une certaine manière. Bon, on verra un peu plus tard comment on les prépare pour les utiliser. On les utilise pour mettre dans le compost. Voilà. Et on verra aussi pourquoi ces plantes, pourquoi dans le compost, et ce qu'elles apportent par rapport à un compost où il n'y aurait pas les plantes.
Il y a un instant particulier pour ces préparations aussi, hein, je crois savoir. On ne peut pas faire ça toute l'année.
Il y a un instant particulier, voilà. Bon, donc, une fois qu'on aura vu un peu les généralités, c'est vrai que c'est un peu difficile, parce que l'agriculture biodynamique aussi, c'est une manière de voir les choses un peu différentes. On ne considère pas une plante, par exemple, seulement par rapport à son principe actif, c'est-à-dire les molécules qu'on peut en tirer, mais dans son être tout entier, comment elle pousse, pourquoi elle pousse à tel endroit, et ainsi de suite, dans son caractère. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et c'est pour ça que, de temps en temps, je sens David piaffer, quand est-ce qu'on va voir le pissenlit?
Oui.
Et on y arrive, parce que... Donc là, mi-mars, c'est l'époque, il commence à bien fleurir. Et on avait vu, avant ce pissenlit, on avait vu d'autres plantes. Donc l'Achillée millefeuille et la matricaire, où ce sont des fleurs qu'on utilise. Et ensuite, on avait vu l'ortie et le chêne, où l'ortie, c'est la partie aérienne, c'est-à-dire feuille et tige, ou seulement feuille. Et le chêne, c'est l'écorce qu'on utilise. Donc là, on était dans... Bon, on avait parlé un petit peu de ce qu'est un arbre, à quoi correspond l'écorce, et ainsi de suite. Et là, on retombe sur les deux dernières plantes, puisqu'il y a 6 plantes qu'on utilise, qui sont le pissenlit et la valériane, dont on parlera la prochaine fois. Et là, on retombe de nouveau à utiliser les fleurs. Alors, dans une précédente émission, j'avais parlé un petit peu que la plante est constituée de plusieurs parties, une racine, une par laquelle elle se nourrit et qu'elle communique avec son entourage de plantes, disons. La feuille et la tige, qui est la partie rythmique par laquelle elle respire, où elle absorbe le gaz carbonique et rejette de l'oxygène. Et puis, il y a la fleur, qui est elle est en communication avec le monde animal, quelque part, avec les insectes et ensuite où elle peut se reproduire quelque part. Donc on retombe, les deux premières plantes dont on a parlé, ce sont des fleurs qu'on utilise, et là les deux dernières, ça va être des fleurs aussi. Puis les plantes du milieu, c'est d'autres parties. Alors pourquoi les fleurs? C'est quand même la partie la plus cosmique, c'est-à-dire la plus orientée vers le ciel. Et le principe de l'agriculture biodynamique, c'est de rendre de nouveau les sols assez sensibles pour recevoir toutes les influences de la lumière et de la chaleur qui arrivent du cosmos, quelque part. Donc, on a quelque part des forces de terre et d'eau qui viennent du sol, et des forces de lumière et de chaleur qui viennent du haut, et c'est un peu le yin et le yang. Le yang serait la terre et l'eau, et le yin serait la lumière et la chaleur. Donc, on est toujours en train de travailler, c'est pas de la médecine chinoise, mais on travaille quand même beaucoup, beaucoup avec ces doubles courants.
Et l'un ne va pas sans l'autre.
Et l'un ne va pas sans l'autre. Alors, comme je vous le disais au début, on est très, très loin de la réflexion scientifique ordinaire qui n'a tendance à voir que la matière, que les molécules, que les atomes, qui existent, hein, qui sont là, mais nous, on va voir un peu plus loin, on n'est plus dans la quantité, on n'est pas que dans la matière, on est dans la qualité aussi. Donc, souvent, quand je parle des plantes, je ne parle pas de principes actifs, mais je parle de leur qualité, leur caractère, les plantes d'ombre, les plantes de lumière. Il faut accepter ça, hein, mais... moi, je suis scientifique de formation et c'est vrai que si je vois les résultats, je sais que je peux me fier à quelque chose. Les sciences expérimentales, normalement, on fait des expériences, on voit des choses, on essaye de trouver des théories, on ne les trouve pas toujours. Et les théories, souvent, on en trouve une et puis quelques dizaines d'années après, on remodifie la théorie parce qu'on se rend compte qu'elle n'est pas complètement juste. Donc, c'est quelque chose où le monde scientifique, les vrais scientifiques se remettent toujours en question, quelque part. Donc, ce pissenlit,
ah,
on
oui.
arriver au pissenlit.
Belle introduction.
Alors, voilà, il fleurit. C'est donc une plante très commune. On pourrait ne pas y faire très attention, on marche dessus.
Tout le monde connaît le pissenlit aussi, elle est très populaire.
Tout le monde connaît le pissenlit, c'est quelque chose de très commun. Et pourtant, il a des particularités, je vais vous en parler un petit peu, qui ne sont pas communes. Dans ses manières de pousser, il n'est pas comme les autres plantes, quelque part.
C'est le découpage des feuilles qui questionne et qui interroge, et peut-être qu'il fait un petit peu peur, et pissenlit considéré aussi comme une mauvaise herbe, hein, pour certains, en tout cas.
Oui, oui, en tout cas, tout ce qui est très commun, qui pousse un peu n'importe où, peut être considéré comme quelque chose de gênant.
Le pissenlit pousse vraiment n'importe où, il n'y a pas c'est pas une plante bio-indicatrice ?
Alors, si, c'est une plante bio-indicatrice, c'est vrai. Entre autres, il est là pour, quand il y a trop de matière organique non dégradée, quelque part, brute, la matière organique peut être brute et une fois qu'elle a été dégradée par les bactéries, les micro-organismes, elle se minéralise et peut être adoptée par le sol. Mais le pissenlit, lui, il va pousser. Par exemple, quand vous voyez un champ jaune de pissenlit, comme un ciel étoilé quelque part, parce que le pissenlit peut ressembler à une étoile dans le ciel, quelque part. On voit vraiment que c'est une image du cosmos. On peut être à peu près certain qu'il y a eu beaucoup de matière organique, type un épandage de résidus liquides, hein, je ne trouve plus les mots.
De lisier, non ?
De lisier, voilà, un épandage de lisier. Derrière ça, donc ça, là, on va avoir une matière organique brute qui va être difficile à assimiler, et on va avoir le pissenlit qui va pousser dans ces champs-là. Ah et oui. Le champ à côté peut ne pas avoir de pissenlit quelque part.
Hein. Ah bah quand je vais l'avoir dans mon assiette, je vais le regarder différemment ce pissenlit.
Donc, mais on va le trouver qui pousse sur un chemin bitumé aussi, au milieu d'un chemin bitumé, on va trouver des pissenlits. Mais il y a peut-être un endroit là aussi où il y a eu de la matière organique qui a du mal à se dégrader justement parce qu'elle est sur le bitume. Et donc le pissenlit apparaît ici pour faire son travail, quelque part. Donc... on a vraiment ce côté-là. On va revenir là-dessus au niveau de ses propriétés médicinales. On va le trouver. Vous avez un dallage en pierre. Il peut pousser des pissenlits entre deux pierres quelque part. Même s'il n'y a pas beaucoup de terre, mais la pierre a pu amener de la matière organique là entre deux pierres qui ont été lavées par la pluie et la matière organique qui stagne ici. Donc on le trouve un peu dans beaucoup d'altitudes du niveau de la mer. Je ne sais pas exactement quelle altitude on le trouve, mais assez haut quand même. En tout cas, jusqu'à 1500, il n'y a pas de problème. 1500 mètres. Voilà, c'est une plante très commune.
Est-ce que le pissenlit absorbe cette matière organique dont vous nous parlez ? Est-ce que quelque part, c'est une plante dépurative du sol qui va venir absorber et puis retraiter cette matière ?
Oui, 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 c'est une plante... comme pour nous, dans notre organisme, elle sera dépurative aussi, c'est une plante qui est là pour épurer le sol, quelque part, et faire que la matière organique... Il y a des plantes qui vont être gênées par trop de matière organique brute, qui vont provoquer une acidité. Il y a des plantes qui ne vont pas pouvoir pousser. Le pissenlit, lui, il résiste à ça. Il est là pour neutraliser, quelque part.
Ce qui veut dire que d'une année sur l'autre, le pissenlit peut voyager, se déplacer, parce qu'il n'y a plus de matière organique.
Totalement. Et donc, bon, pour les gens qui sont intéressés par ces plantes qu'on appelle plantes bio-indicatrices, c'est-à-dire la présence d'une plante sur un terrain va permettre de savoir si on a une déficit en un certain un élément, ou si on en a trop, des choses comme ça. Vous avez de très bons des livres, il y a trois tomes, si je me rappelle bien, de Gérard Dusserre, qui s'appelle « Les plantes bio-indicatrices ». Vraiment, là, vous...
C'est passionnant.
C'est passionnant. Voilà. Donc, il n'y a pas que le pissenlit qui a toutes les plantes ont une utilité. Elles ne poussent pas comme ça, par hasard.
C'est s'offrir une autre lecture du paysage aussi, de connaître voilà. Quelles plantes poussent
voilà,
à quel endroit.
C'est une autre lecture du paysage. Et puis, pour l'agriculteur aussi, ça peut lui donner des indications aussi précises qu'une analyse chimique du sol, quelque part. Donc, voilà, ce pissenlit très commun et ça passe trop vite le temps. On va essayer d'en dire un peu plus quand même.
Aujourd'hui ou la prochaine fois ? C'est toute la question. Peut-être la prochaine fois, Didier, il nous reste peu de temps et je pense qu'on n'aura pas le temps de tout dire peut-être aujourd'hui, sensiblement, parce que là, voilà, c'était une belle introduction pour le pissenlit. On a quelques éléments. Désolé, je vous ai emmené sur...
On va essayer de ne pas le faire en trois semaines, en trois émissions. Mais...
Je ne suis pas dérangé.
Voilà, eh bien...
Rendez-vous dans deux semaines pour la suite de cette introduction au pissenlit, qui est la cinquième plante utilisée en préparation bio-dynamique.
Et le printemps sera arrivé.
Oh oui, on y sera, en plein dedans. Merci Didier, excellente journée et à dans deux semaines.
CFM Villefranche, le MAG.